dans cet épisode du balado compte complet.
J'aime, moi, le lanceur de quatre tirs qui lance pas si fort que ça. J'aime le lanceur de finesse. Mm-hmm. J'aime ça voir un gars au monticule se débrouiller avec une rapide à 90 000 à l'heure, mais qui a place où il la veut, que deux, trois autres lancers efficaces, qui désynchronisent le frappeur. Tu sais, c'est spectaculaire, un gars qui lance 99, mais tu sais que c'est ça qui s'en vient, là.
Au jeu! Deuxième prise! Compte complet!
Le balado compte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Huzreau et Marc Griffin.
Bienvenue à Compte complet. On est à la fin du mois d'août. Alain Huzreau en compagnie de Marc Griffin. On va commencer par parler de l'actualité comme telle en s'attardant sur deux sections de façon particulière. D'abord, Ligue nationale, la section Ouest. Là, la poussée des dernières semaines des Padres de San Diego et des Diamondbacks de l'Arizona, j'insiste là-dessus, parce que les enjeux ne jouent pas si mal, malgré les blessures, mais les deux équipes dont j'ai parlé, Padres et Diamondbacks, jouent très, très bien, de sorte qu'en ce lundi matin, il y a quatre matchs seulement qui séparent les trois équipes avec les Dodgers sont en tête. Les Diamondbacks à quatre parties et les Padres à trois. Marc, il y a de quoi s'inquiéter pour les Dodgers. Comme je l'ai mentionné, c'est pas qu'on joue si mal, mais on a encore des blessures. On a rappelé Bobby Miller qui n'était peut-être pas prêt. Glasnow qui est sur la liste des joueurs blessés. Tandis que là, je mets mon accent sur les Diamondbacks parce que là, leurs cinq partants sont en santé.
Bien, ça va rendre cette course-là intéressante. Et t'sais, on parlait des Diamondbacks, malheureusement, elles viennent de se faire balayer par les Rays, mais avant ça, elle est très, très bien. Ça se ressent. Moi, je suis pas nécessairement trop inquiet du côté des Dodgers. C'est le retour de Mookie Betts. Là, je comprends que tu parles surtout des lanceurs partants là, où on a un problème. Oui. Moi, où ça m'inquièterait un peu plus du côté des Dodgers, Alain, c'est que mettons là, qu'on réussit à tenir le coup. On fait les séries, on gagne le titre de la division. Mais est-ce qu'on s'en va à la guerre avec ces lanceurs-là en série? C'est là, moi, que ça m'inquiète un petit peu plus du côté des Dodgers. Alors que si, tu le dis, si les Diamondbacks se faufilent en série, que là, soudainement, tous leurs lanceurs partant sont de retour, on sait que c'est une autre saison, les séries. Mais premièrement, il faut s'y rendre, ça, c'est la première chose. Mais je trouve ça le fun, moi. Regarde, les Diamondbacks ont été en série mondiale l'année dernière. On veut prouver que c'était pas juste parce qu'il y a eu de la chance. On veut prouver qu'on est une bonne organisation, puis c'est normal. Est-ce que les Padres ont fait beaucoup d'efforts au cours des dernières années pour rejoindre les Dodgers? Absolument. Ouais. Alors, tu sais, je trouve ça le fun. Il faut que ça soit ça, tu sais. J'aime bien les Phillies, je trouve ça le fun, mais tu sais, des avances de 7, 8 matchs, 9 matchs, c'est moins intéressant. Des courses au championnat, même s'il y a des équipes repêchées aujourd'hui, c'est ça qui est le fun. C'est ça qu'on veut voir. Puis je trouve que dans l'Ouest, on a une course à trois. Puis là, ça va rendre des choses intéressantes, autant qu'il va falloir prendre des décisions en ce sens. Tu sais, les Dodgers ont été longtemps, en mois d'août, mois de septembre, là, on se prépare, on fait jouer des joueurs, on essaie. Mais là, il faut que tu gagnes des matchs. Là. Tu joues pour gagner des matchs. Et dans le dernier droit, avec les Otani, Betts qui est de retour, là, il y a Freeman qui a raté le dernier match, mais bon, ça semble pas sérieux. Donc, c'est bon pour le baseball de voir ça, Alain.
Oui, je regardais les Dodgers. Il reste une série de quatre matchs contre les Diamondbacks et une autre à domicile contre les Padres. Les Diamondbacks, c'est très bientôt, en fait. C'est à la fin du mois. Et du côté des Padres, c'est à la fin de la saison, lors de la dernière semaine de la saison à domicile. Et ce que tu mentionnais des Dodgers à Los Angeles, Marc, c'est une copie conforme de ce qu'on a vu au cours des deux dernières années. Pourquoi on a perdu? Parce qu'on n'avait plus cette stabilité chez les lanceurs partants. On s'est retrouvé une main dans le dos. Puis je pourrais dire la même chose des Braves d'Atlanta. Pourquoi on a perdu tôt? C'est parce qu'on était... on était dans le trouble. Tu sais, pas qu'on a été négligent, parce qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, je pense, chez les Dodgers pour pouvoir se renflouer chez les lanceurs partants. Mais ça se pourrait qu'on se retrouve encore avec une main dans le dos face aux adversaires.
Puis, ce qui est... J'allais dire le mot bizarre, mais effectivement, Alain, c'est, du côté des Dodgers surtout, c'était un problème majeur au cours des dernières années. Une fois en série, on est un peu mal pris, un peu amoché en fait en termes de lanceurs. Alors écoute, il reste encore quelques temps à la saison régulière, il reste encore quelques temps pour se voir s'il n'y a pas des gars qui peuvent reprendre un peu... Bon, la santé ou peu importe, mais ça va être à surveiller. Moi, ce que j'aime, en fait, Alain, on parle évidemment de la division Ouest, mais globalement, là, tu sais, qui est capable de nous dire aujourd'hui, là, qui va être en série mondiale cette année? Tu sais, assurément. Je trouve ça le fun qu'on ne puisse pas vraiment répondre à la question. Oui, il y a des équipes qui sont meilleures que d'autres, mais viens pas dire si demain matin, les Diamondbacks ne font pas les séries qui sont... T'sais, ils vont être dangereux à suivre. Puis j'en regarde les Brewers, ça va, ils vont être dangereux. Alors, je trouve ça le fun que dans cette saison 2024, il y a une belle parité. Là. Je parle pas évidemment des White Sox là, puis tout ça, mais je parle des équipes là, qui peuvent faire les séries. Difficile là, de prévoir exactement qui va aller jusqu'au bout.
Oui. Écoute, Marc, je te pose la question directement. Bon, les dangers sont premiers. Qui est plus dangereux? Les Diamondbacks ou les Padres?
Écoute, la question est vraiment bonne. Tu sais, les Padres aussi, avec tout le monde en santé, ça devient une équipe qui est pas mal intéressante. Moi, je pencherais un petit peu plus du côté des Diamondbacks, mais ceci étant dit, tu sais, il y a quand même une bonne équipe du côté des Padres de San Diego.
Ouais.
Mais le fait, encore une fois, on vient de le mentionner, que les partants des Diamondbacks, si tout le monde est en santé, comme ça semble être le cas en ce moment. Mm-hmm. Je pense que c'est une équipe qu'il va falloir surveiller.
Oui, ma seule inquiétude, Marc, on a perdu Christian Walker. C'est un gros morceau. Gabriel Moreno est blessé également. Ketel Marte, il y a des inquiétudes de son côté. Là, ça commence à faire... c'est le tiers de la formation à l'attaque. Marc, on a de la profondeur. Là. Suarez a commencé à frapper un peu plus. McCarthy est sur une poussée qui a fait en sorte que Thomas s'est retrouvé dans les ligues mineures. Donc, il y a des joueurs qui ont pris la relève chez les Diamondbacks de l'Arizona. Mais je trouve que les Padres sont peut-être plus aguerris. Il y a des joueurs qui ont du vécu là-dedans. Et écoute, je me gratte la tête à savoir laquelle des deux équipes.
Ben, c'est tellement serré. Tu regardes la fiche, là, évidemment, bon, on compare fiche des deux équipes. Tu regardes à domicile, les Padres sont un peu moins bons à domicile que les Diamondbacks. Ils sont seulement 33-29. Par contre, à l'étranger, ils sont dominés à 37-26. Pour contre des équipes supérieures à 500, ils jouent pour 500 ou à peu près là, 34-33 en fait, alors que les Diamondbacks sont trois matchs sous la barre des 500 à ce niveau-là, mais c'est une équipe qui est nettement meilleure à domicile aussi. Donc, regarde, jonglez ça comme vous voulez. Les deux ont un différentiel identique à plus 70. Alors, c'est extrêmement serré, d'où le fait qu'on a un peu dans... Tu sais, on peut pas s'entendre nécessairement du fait que quelle équipe va être... est plus susceptible de rattraper les Dodgers.
Oui, puis en passant, San Diego, sa dernière semaine finit avec trois matchs contre les Dodgers, on va en parler tantôt, et trois matchs contre les Diamondbacks. Donc, ça va être une grosse dernière semaine. C'est encore serré. Eux, ils vont être déjà en mode série là, lorsque la dernière semaine va s'amorcer. Maintenant, la centrale de la Ligue américaine. Là, Cleveland, c'est une avance qui s'effrite à vue d'œil. Écoute, à l'attaque... On était un petit peu plus vulnérable. On n'a pas eu la tenue des lanceurs partants qu'on aurait voulu, mais on a tenu le coup jusqu'ici. Là, il y a trois matchs qui séparent trois équipes. Cleveland en avant, deux matchs devant Minnesota, qui étaient les favoris quand la saison a commencé, et trois matchs devant Kansas City, une des belles surprises cette année dans la Ligue américaine, sinon la surprise. Je sais que tu mentionnais, Marc, que j'avais prévu une amélioration. Pas à ce point-là. Je serais au-dessus de mes affaires si je disais que je prévoyais que les Royals de Kansas City étaient pour faire les séries. Je n'ai pas cette prétention-là. Mais tu sais, je parlais de la tenue. Bon, du fait qu'on était en santé chez les lanceurs partants, chez les Diamondbacks de l'Arizona, c'est beaucoup ce qui a tenu les Royals de Kansas City, tu sais, depuis le début de la saison. Puis ça continue. Non seulement ça, mais il y a des gars qui ont pris en confiance depuis le début de la saison. Tu sais, Bobby Witt, l'année passée, une très, très bonne saison. Ben, il a mis une coche au-dessus de sa production. Donc, c'est une très, très belle histoire, celle des Royals. Mais moi, si tu me donnais encore une fois, sous la torture, Avec un petit 5, j'ai l'impression que les Twins vont commencer. Ils ont déjà commencé à gruger, ils sont juste à deux matchs. Je pense que les Twins vont finir premier, comme c'était la prévision de la plupart des observateurs.
Bon, écoute Alain, t'es un gars de statistiques. Voici les statistiques là, des trois équipes là, qu'on pourrait bon regarder de façon peut-être un petit peu plus précise. Au niveau du différentiel, les Royals sont nettement en avance sur les deux autres équipes. Alors, si ça, c'est un aspect à surveiller, ben un petit avantage du côté des Royals. L'affiche contre des équipes supérieures à 500 maintenant. Et c'est là que les Twins, ils sont 29-37 contre des bonnes équipes. En fait, les équipes supérieures à 500. Ouais. Les Royals sont pas guère mieux à 27-35. Alors, seuls les Guardians qui ont une fiche positive à 34-31 à ce niveau-là. Donc ça, c'est un facteur. Évidemment, là, le calendrier joue. Je sais qu'il... Tu sais, les gens disent, ouais, mais tout le monde joue contre tout le monde. Oui, mais parfois, tu as un calendrier plus facile en début de saison, un petit peu plus difficile en fin de saison. C'est à la fin qu'on... Évidemment, qu'on combine tout ça, mais... bon, alors ce sont des choses quand même à considérer. Encore une fois, je me répète un peu, je trouve ça fantastique qu'il y ait une course à trois, surtout impliquant les Royals, parce qu'évidemment, Bobby Witt, tu en as parlé, on veut tous le voir, un peu comme Mike Trout à ses débuts, lorsque ça allait très bien, on voulait voir les Angels en série, c'est le cas avec les Royals à ce niveau-là. Mais je vais dire une chose, tu sais, souvent les centrales, c'est soit nationales ou américaines, on dit, bon... Mais là, on a vraiment ce qu'on veut. Là. On a vraiment une série, une course à trois équipes. Puis trois équipes, tu sais, tu regardes le style de ces trois équipes-là, c'est des styles, ce sont des styles différents de ce que tu vois, évidemment, dans les autres divisions. Alors, c'est ça qui rend aussi cette course-là intéressante. Tu sais, on court, on frappe, on joue bien en défense. Oui, on a des bons lanceurs, mais... T'sais, on est très athlétique dans les équipes centrales. Pas qu'on l'est pas ailleurs, mais tu comprends, on est bâti un peu de façon différente.
Ben, Cleveland a été précurseur, Marc. On l'avait observé il y a une couple d'années, même avec les défenses adaptées. Avant l'adoption là, des restrictions sur les défenses adaptées, on avait noté que Cleveland avait commencé à choisir ses joueurs à les former en fonction de contrer les défenses adaptées. C'est pour ça, quand on les a adoptées, moi, je trouvais que des équipes comme Cleveland étaient peut-être pénalisées pour s'être adaptées avant les autres. Mais bon, on s'est aperçu que ça n'a pas changé grand-chose, les défenses adaptées, puis Cleveland va peut-être continuer dans le même sens. On regarde d'ailleurs le dernier repêchage. Cleveland a repêché exactement le genre, le type de joueur, là, c'est-à-dire très athlétique, là, qui va donner un bon rendement, qui ne sera peut-être pas la super vedette avec un MPP à 950, mais qui va être capable de tout faire sur le terrain. Donc, Cleveland est allé dans ce sens-là. Puis tu parlais de calendrier. Du côté des Guardians, Marc, il reste encore des séries. Deux contre Kansas City. C'est-à-dire une contre Kansas City, deux contre Kansas City, 7 matchs contre les Royals et 4 contre les Twins du Minnesota d'ici la fin de l'année. Donc, tu sais, c'est sûr que on va le dire, là, les trois équipes ont probablement, particulièrement Minnesota et Kansas City, ont ambitionné un peu sur les White Sox de Chicago. Mais fallait jouer quand même ces matchs-là, tu comprends?
Oui, absolument. Puis on espère aussi du côté des Twins qu'Édouard Julien, qui a été rappelé pour une troisième fois cette année, puisse finalement prendre un petit peu plus de place. Encore une fois, je regardais le match, Édouard, trop de retrait sur des prises, sur décision, Alain. Tu sais, c'est encore un petit peu le jeu d'anticiper ou de deviner. Tu sais, mécaniquement, il n'y a pas de doute, sa discipline, il n'y a pas de doute. C'est un frappeur des ligues majeures, il faut juste peut-être... avoir une petite petit peu plus de tu sais, je veux dire, d'agressivité, dans le sens que, tu sais, tu le sais, Alain, tu veux pas te retrouver à deux prises tout le temps. Puis ça semble souvent être le cas avec Édouard Julien. Tu as l'impression qu'il est 0-2 tout le temps. Alors, tu sais, peut-être être un petit peu plus agressif tôt dans le compte, peut-être essayer de mettre des balles en jeu un petit peu plus tôt dans le compte. Regarde, tu sais, essayer de s'élancer sur des tirs à son goût, mais qui sont pas parfaitement le tir qu'il souhaite avoir. En tout cas, on lui souhaite évidemment bonne chance au cours des prochaines semaines, parce que ça serait le fun qu'il soit un joueur important dans une course au championnat pour les Twins.
Ouais. Moi, pour les Twins, à mon avis, le joueur clé, ça va être Pablo Lopez. Il vient d'avoir deux bons départs, même que je te dirais qu'il est sur une très, très bonne séquence. J'ai regardé ses statistiques, là. Ses six derniers départs, il y a 5 départs de qualité, 3 victoires, 1 défaite. Moi, je pense que ça va passer par là. Il faut que ta locomotive soit capable de tirer les autres. Ce que Pablo Lopez n'a pas fait depuis le début de l'année. Là. En tout cas, jusqu'à, je te dirais, à la mi-juillet.
Oui, tout à fait.
T'sais, moi, je pense que c'est de ce côté-là que ça va passer. Évidemment, bon, Paxton et Correa sont sur la liste des joueurs blessés. Ça, c'était un problème chez les Twins, Marc. Il y a beaucoup de joueurs fragiles. Hein. Correa, Lewis, Paxton. T'sais, on se croise les doigts de ce côté-là. C'est peut-être là où ils sont le plus fragiles. Pour Kansas City, Marc, c'est juste la profondeur à l'attaque qui m'inquiète un petit peu. Après Bobby Witt, puis Salvador Perez, t'as Pasquantino, t'as ces trois-là. C'est un peu comme Cleveland, hein? On a carburant avec trois joueurs tout le long de la saison. C'est pour ça que je pense que Minnesota va terminer premier, en raison de peut-être cette manque de profondeur-là de Cleveland puis de Kansas City.
Bon, en tout cas, ils ont tous des défis. Ouais. Les trois équipes ont des défis à surmonter, ouais. Mais ça reste que j'ai l'impression, Alain, qu'on va vivre une belle course au championnat d'ici la fin de l'année. Je pense pas qu'une équipe va vraiment se démarquer là, d'ici la fin, compte tenu évidemment du calendrier aussi.
Oui. Mais c'est le temps de la carte de baseball de la semaine, qui est une présentation de card-union-depot.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 14 000 articles en vente sur eBay. On porte notre attention sur quelqu'un qui a marqué l'histoire de Cleveland, entre autres, par sa présence dans les films, mais surtout identifié aux Brewers de Milwaukee. C'est Bob Uecker. Et on retient notre attention sur la carte de 1965 Tops. C'est la carte numéro 519. Bob Uecker, Marc, extrêmement populaire, oui, à Milwaukee, mais pas juste là-bas. Il s'est moqué de sa propre carrière depuis des décennies. Il est âgé de 90 ans, il est encore en forme. C'est un joueur de tour invétéré. Moi, je peux te dire, dans les entrevues qu'on a sur notre balado, il y a quelqu'un qui l'a bien connu, Yvan Dubois, qui racontait que ça n'avait aucun bon sens, que ça se raconte pas les tours qu'il jouait pendant le camp d'entraînement. Les deux étaient receveurs, donc se côtoyaient. Il était de commerce très agréable, semble-t-il. Et petite anecdote là, sur les cartes de baseball, c'est un frappeur droitier. Puis, à un moment donné, lors de la séance de photos pour les cartes, il s'est présenté comme frappeur gaucher. Donc, témoignage un peu de la popularité de Uecker après sa carrière. Ben, la plupart de ses cartes ont été publiées après sa carrière et selon TradingCardDatabase.com, on compte au total 62 cartes de Bob Uecker. On l'a vu dans différentes réclames publicitaires, Marc. On ne l'a pas connu, nous, évidemment. C'est un personnage, moi, à mon avis, qui a marqué le monde du baseball.
Bon, absolument. Écoute, c'est, tu le dis, c'est un personnage, un excellent commentateur, évidemment, de baseball, mais aussi, bon, tu le dis, son personnage. Écoute, le rôle qu'il a joué dans le film Bull Durham, par exemple. C'est-tu Bull Durham ou Major League?
C'est Major League.
Major League, oui, excuse-moi, Major League. Ouais. Alors, tu sais, Just a Bit Outside, je veux dire, c'est un classique, là, et puis c'est vrai, tu sais, moi, j'ai eu l'occasion de le côtoyer. Le mot peut-être fort, là, tu sais, lorsque je couvrais les expos, évidemment, il était là avec les Brewers, mais tu sais, c'est un personnage. Il dégage, il y a quelque chose, et tu le dis, toujours souriant, dans le sens que une blague n'attend pas l'autre. Vraiment un personnage, là, fantastique.
Oui, effectivement. Puis, regarde, il a été dans de nombreuses réclames publicitaires. C'était le visage pendant longtemps des Brewers de Milwaukee, particulièrement quand il était pas bon. On espère davantage que les caméras soient sur les joueurs. Mais Uecker, vraiment, a été une attraction. Non seulement avec les Brewers, mais dans tout le monde du baseball.
Je vous rappelle notre partenaire principal, le plan de match à Boucherville, donc boutique de baseball, cage de frappeurs. Vous pouvez avoir tout, évidemment, du côté baseball. Il y a les cours privés aussi qui se donnent ici à plan de match. C'est à Boucherville. Allez sur leur boutique en ligne également. On les remercie, évidemment, de leur support. Et également, je vous mentionne la meilleure façon pour nous écouter ou nous regarder, c'est d'aller sur notre site Internet www.comptecomplet.com.
Bon, dans le baseball majeur, semble-t-il qu'il y a des discussions, c'est pas formel, mais qu'on parle de prendre des moyens pour favoriser les duels de lanceurs d'antan. Je parle pas nécessairement d'un duel de 2 à 1, mais ce qu'on veut dire par là, c'est que, bon, t'annonces deux lanceurs partant. Tu sais, Marc, on aime la compétition, bon, des 1 contre 1. J'arrive des Jeux olympiques, j'ai fait deux disciplines où c'était des duels directs, au tennis de table, Puis bon, au tir à l'arc, tu vas me dire, on se tire pas dessus au tir à l'arc. Non, mais c'est quand même des duels où on vise des cibles, puis il faut battre l'autre. Tu comprends? Puis il y avait quand même un certain suspense. Donc, on aimerait recréer ces duels de lanceurs partants qu'on voit moins parce qu'on lance de moins en moins de manches chez les lanceurs partants pour toutes sortes de raisons, Marc. Ça peut être pour des raisons de protection du bras du lanceur. Ça peut être pour des raisons stratégiques, parce qu'on lance plus de rapide, on veut. Bref, écoute, on en a une liste complète. Donc, c'est évident, c'est une tendance, Marc. C'est pas une tendance qui date d'il y a 20 ans, c'est une tendance qui part des années 70. Quand j'ai commencé à suivre le baseball, les matchs complets étaient un critère pour évaluer un lanceur partant. Là, on est tombé par la suite, de plus en plus. Puis, écoute, la courbe, là, elle n'a pas cessé de baisser. Le seul moment où ça a monté un petit peu, Marc, c'est quand on a adopté le frappeur de choix dans la Ligue américaine au début des années 70, puis c'est revenu par la suite. Tu sais, ça a redescendu par la suite. Moi, j'ai mes réserves. Je vais t'entendre là-dessus, mais j'ai mes réserves parce qu'il y a des moyens qui ont été pris. Par exemple, il y a des ligues indépendantes où on a pensé. Si on retire notre lanceur partant avant 5 ou 6 manches, ben tu perds ton frappeur de choix. Écoute, j'ai des réserves pour les énumérer tantôt, mais je ne sais pas si on peut changer la façon de faire. Puis moi, personnellement, regarde, le baseball a évolué. Est-ce que ça me dérange tant que ça qu'on utilise un ouvreur? Je ne sais pas. Je me pose des questions. Le produit est bon. Il y a des choses à faire. Moi, c'est des balles en jeu que j'aimerais voir davantage. Mais je ne sais pas si c'est relié à l'utilisation des lanceurs partants de la façon dont on le fait.
Bien, en fait, je vais répondre à ta dernière question. Oui, il y a un lien à faire parce que, bon, premièrement, là, c'est que la fameuse discussion que tu parlais, là, qui est pas formelle, là, c'est qu'on voudrait obliger un partant à lancer 6 manches. Et évidemment, il y aurait des exceptions si tu accordes tant de points, si bon, ça. Moi, ma première réaction, c'est de dire ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun sens de faire ça. Par contre, c'est les raisons derrière. C'est intéressant. Parce que si tu veux plus d'attaque, Alain, c'est clair que si tu affrontes le lanceur une troisième fois, bon, on a les statistiques pour le prouver, c'est que tu vas mettre une balle en jeu possiblement, puis bon, parce qu'un lanceur, souvent, premier tour au bâton, le MPP, il est à 400 ou 500, deuxième présence, il est à Herbois, puis rendu presque à la moyenne du baseball à 600, puis le troisième tour, ben là, le MPP, il est plus élevé. Que ce soit la moyenne au bâton ou le MPP, là, ça suit une courbe. Moi, je pense que, en fait, les raisons principales derrière, c'est ça, Alain. C'est qu'on veut créer plus d'attaques. Puis là, en disant ça, ben, on va forcer les lanceurs aussi à développer d'autres tirs que de garrocher des balles à 99 000 à l'heure sur tout le monde. Moi, je suis convaincu que c'est ça derrière. Tu sais, de forcer un gars à lancer 6 manches, ça n'a pas de bon sens. Tu peux pas rentrer dans la stratégie baseball à ce niveau-là. Là, je sais que le baseball était contre les ouvreurs parce qu'on n'aimait pas ça, ben, contenu, bon. Mais, tu sais, moi, je pense que c'est bien plus pour créer encore une fois le spectacle à ce niveau-là. Mais je sais pas, tu sais, j'aime qu'on y réfléchisse, j'aime qu'on essaie de trouver des solutions pour voir est-ce qu'il peut y avoir plus d'attaques, mais je pense pas que ça soit évidemment la manière d'agir puis de dire à un lanceur partant faut que tu lances 6 manches. Ça c'est comme, tu sais, Alain, tu te rappelles-toi quand lorsqu'on a adopté évidemment le cadran, on s'est toujours dit on aurait aimé ça que les joueurs se disciplinent eux-mêmes pour qu'on n'ait pas de cadran. Finalement, on est obligé de le faire, puis je pense que tout le monde est heureux de le faire, mais en même temps, je pense pas qu'on peut changer la tendance puis de revenir à des gars qui lancent pas dans le baseball moderne. Alors, j'aime la pensée derrière puis de se dire est-ce qu'on peut développer d'autres lanceurs. Moi j'aimerais, tu sais, le fait que j'ai aimé ça au départ, c'est que j'aime moi le lanceur de 4 tirs qui lance pas si fort que ça. J'aime le lanceur de finesse. J'aime ça voir un gars au monticule se débrouiller avec une rapide à 90 000 à l'heure, mais qui a place où il la veut, que deux, trois autres lancers efficaces, qui désynchronisent de frappeur. T'sais, c'est spectaculaire, un gars qui lance 99, mais tu sais que c'est ça qui s'en vient. Là. T'sais, je dis que alors qu'un lanceur de finesse, moi, j'aime ça personnellement. Tu me demandes un duel de lanceurs, j'aimerais mieux voir un Greg Maddux, par exemple. Bon, on le titre souvent l'exemple, mais mm-hmm. un duel entre Maddux et, je sais pas moi, un autre lanceur de finesse que deux garrocheurs. C'est spectaculaire, là. J'ai pas de problème. Là. Je vous parle vraiment de mm-hmm. ce que moi, je préfère. Alors, c'est là que je trouve que j'aimerais qu'on puisse trouver une solution de revoir, de valoriser davantage ce type de lanceur-là.
Ouais, écoute, il y a eu un article sur ESPN sur ce dossier-là, puis il y a des directeurs généraux qui disaient « Oui, l'idée est bonne, mais c'est comme le dentifrice là, que tu as ouvert, là, tu ne remettras pas le dentifrice dans le tube, là, je veux dire. La vélocité, c'est ça qui donne du trouble aux frappeurs. Puis, tu n'iras pas à l'encontre de ce qui marche. Donc, je vois pas comment on peut changer les choses. Moi, ce que j'ai entendu de plus, puis je sais que ça peut sembler ridicule, puis il y en a qui ont émis l'idée, bon, peut-être que la balle, on pourrait la modifier un peu de sorte que ce soit plus difficile de lancer des balles rapides. Autrement dit, la densité la diminuer un peu, ce qui donnerait aussi moins de coups de circuit, mais probablement plus de balles en jeu. Si tu changes la balle un peu pour que les frappeurs puissent la mettre en jeu, ben, faut que tu t'organises pour qu'il y en ait plus à l'intérieur du terrain. Sinon, les frappeurs vont se pousser pour aller dans le rectangle des frappeurs puis essayer de la mettre de l'autre côté. C'est pas ce que tu veux. Tu veux du monde qui court puis du monde qui attrape la balle aussi, là.
Exact. Mais tu sais, Alain, je pense pas qu'il y ait une solution parfaite. Si on change un peu la balle, les gars vont... Tu sais, si t'es habitué de lancer 99, puis là, on te donne une nouvelle balle, puis tu lances 95, qu'est-ce que tu vas essayer de faire? Tu vas essayer de la lancer encore plus fort pour aller atteindre à nouveau 99. Et là, les fameuses blessures, tu sais, qui est aussi là un débat, là, évidemment, autour du baseball, tu sais. Puis on se le cachera pas, c'est la vélocité... qui a créé ce monstre de blessures puis d'opérations de type Tommy John au fil des années. Donc, tu sais, on peut régler un problème, ça va peut-être en générer un autre. Alors, faut faire attention dans tout ça, là.
Oui, tu as raison, parce que des fois, on adopte des stratégies, puis on l'a mentionné, la défense adaptée, malheureusement, ça a été contre-productif, à mon sens. Et ce que je dis toujours, l'élimination des défenses adaptées, ça veut dire qu'on va peut-être avoir moins d'athlètes, puis plus de Joey Gallo, puis de Cal Schwarber. Je ne sais pas que c'est des mauvais frappeurs. Je pense que même avec les défenses adaptées, ils avaient leur place. Mais ces gars-là, sans défense adaptée, ben on va peut-être en prendre un peu plus, alors qu'on veut plus de dynamisme. C'est pour ça des effets pervers. C'est pour ça, moi non plus, puis on parle de balle en jeu. Oublie pas aussi l'approche des frappeurs. Hein. Oui, tu as la vélocité, puis tu as l'approche des frappeurs aussi. Tu as deux prises, là. Regarde, l'approche à deux prises est moins là qu'elle était auparavant. Ça, on le reconnaît. D'ailleurs, Marc, je sais qu'on a fait une manche la semaine passée qui t'a fait sourciller, et bon, qui, moi aussi d'ailleurs, la manche de 8 frappeurs où il n'y a pas une seule balle en jeu, là, avec 5 buts sur balle et 3 retraits sur des prises. Ben, les frappeurs, c'est ce qu'ils recherchent. Donc, de blâmer seulement les lanceurs, tu sais, ça joue à deux ce jeu. Moi, j'ai une question pour toi, direct, par contre, par rapport à ce débat-là. Est-ce que c'est si important que ça d'avoir un débat de lanceur ou c'est le spectacle sur le terrain, peu importe qui lance, qui compte? Parce qu'on est habitué, moi et toi, Marc, puis ceux qui suivent depuis longtemps, le bon vieux duel de lanceurs. C'est ça, Rod Manfred s'en cache pas, là, quand il a éliminé la défense adaptée, c'est ça qu'il voulait. Du baseball à l'ancienne, ça n'est pas caché. Moi, je pourrais lui dire, mais si c'est ça que tu veux, enlève le frappeur de choix, mais c'est autre chose. Mais est-ce que c'est si important que ça d'avoir le lanceur partant? Je sais que tu aimes les lanceurs, bon, à plusieurs, puis tout ça, mais il y a quand même une stratégie derrière l'utilisation de ces lanceurs-là. La stratégie est différente de ce qu'elle était dans notre temps.
Oui, tu viens de le dire. Le baseball est différent, il se joue de façon différente, les athlètes sont différents. Moi, j'ai pas de problème où le baseball s'en va. Je trouve que les frappeurs sont tellement rendus meilleurs. On t'a parlé d'approche tantôt, peut-être là, qu'on pourrait corriger ça un peu pour avoir plus de balles en jeu à ce niveau-là. Mais la puissance fait foi de tout, c'est un cycle. T'sais, je regarde des Stephen Kwan de ce monde, je regarde des... T'sais, même Bobby Witt, oui, il frappe des circuits, mais c'est ce qu'on veut voir, c'est le frapper des doubles, des triples. Fait que moi, j'ai l'impression, tu sais, qu'on est à la bonne place. Les Rays ont tenté d'innover avec, ben, ils ont innové avec l'ouvreur. On l'utilise moins, c'est moins une solution. C'est pas parfait encore, parce que si on utilise des ouvreurs, on sait que ça écope un peu le personnel de releveur pendant une couple de jours après. Fait que c'est pas parfait. Tu sais, je veux dire, moi, je pense que c'est un faux débat, là, cette affaire-là. En fait, ce qu'il faudrait peut-être changer, Alain, là, puis ça, ce sera une autre discussion, mais ce sont les statistiques, à savoir c'est quoi un départ de qualité maintenant, ou est-ce que des départs de qualité maintenant, ou est-ce qu'un lanceur gagnant, faut qu'il lance absolument 5 manches, alors qu'il peut être 4 manches et 2/3 très, très bon. En tout cas, ça sera une autre discussion, mais pas que c'est parfait. Il y a toujours des choses à corriger, puis on le sait, mettre des balles en jeu sera toujours un défi, mais ce sera toujours, je pense qu'il va falloir toujours travailler pour trouver des solutions à mettre des balles en jeu, parce que on veut voir des beaux catchs, on veut voir des relais à la Kiermaier l'autre jour qui lance 100 000 à l'heure au mât pour retirer un coureur. C'est ça qu'on veut voir. On veut voir des gars qui courent, qui essaient de passer, d'étirer un double en trip, puis il va se faire prendre. Ou tu sais, même un jeu au marbre, dans le match qu'on a fait dimanche soir, il y a un jeu au marbre entre les Tigers et les Yankees, alors que Judge atteint l'intercepteur, il y a un relais au marbre. Ce sont des jeux comme ça qu'on veut voir.
C'est exactement ce qu'on veut voir dans le monde du baseball. Marc, pendant qu'on parle des lanceurs partants, Paul Skeens, je veux qu'on parle de lui. Bon candidat aux recrues de l'année, même s'il n'a pas commencé l'année avec les Pirates de Pittsburgh. Sauf que les Pirates songent sérieusement, non seulement à limiter son nombre de tirs, peut-être même que sa saison se termine avant le mois de septembre. Ça aussi, Marc, la gérance des lanceurs et des bras, on est encore à la période essai-erreur.
Ouais, ça n'est pas facile, hein? C'est pas facile dans le cas de Skeens. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Il a lancé beaucoup au cours des des derniers 14 mois. Mais il est devenu le visage du baseball. Tout le monde achète des billets pour aller voir Paul Skeens. Mais en même temps, tu dis, bon, pour sa santé, est-ce qu'on devrait soit le ralentir, soit même lui faire sauter des départs? Elle n'est pas facile à répondre. Honnêtement, là, je ne voudrais pas être dans les souliers des Pirates de Pittsburgh pour prendre ce genre de décision-là, mais c'est le genre de décision qu'il va falloir réfléchir sérieusement.
Oui, mais écoute, comme je te dis, là, on est encore essai-erreur. Ça m'étonne que le baseball majeur n'investisse pas davantage, moi, dans la santé de ses lanceurs, compte tenu des millions qu'on est en train de perdre. Puis, Marc, c'est pas d'hier là, que certaines équipes là, prône qu'on fasse quelque chose. Il me semble qu'on bouge pas vite, en tout cas, en ce qui me concerne. Écoutez, on va vous solliciter, les amateurs qui nous écoutent, est-ce que vous souhaitez qu'on revienne à ces vieux duels de lanceurs partants de l'époque, là, où on les laisse aller jusqu'au bout, ou pratiquement, là, ou en tout cas, plus longtemps qu'on les laisse aujourd'hui? Donc, c'est la question de la semaine qui est présentée par Sylmar Autoville, votre détaillant pour les pneus de voitures et de camions classiques et antiques. On vous invite à consulter le www.sylmar.ca. Donc, envoyez-nous, dis-je, vos propos, vos commentaires, vos suggestions même sur facebook.com/comptecomplet/balado. Aussi, vous pouvez penser par notre site comptecomplet.com.
C'est le moment de notre segment Baseball Québec et Alain, j'aimerais souligner, évidemment c'est la période des championnats canadiens, on en a parlé un peu la semaine dernière ou en fait au cours des dernières semaines. Médaille d'argent pour le Canada à la Coupe Canada, c'était la semaine dernière, c'était présenté dans la province de l'Alberta. Alors bravo, c'est très compétitif, on parle des 17 ans et moins dans cette catégorie-là. Il y a eu la médaille de bronze dans le 18U également, donc bravo. Ça s'était présenté dans l'est du pays. Et il y a eu pour le championnat senior féminin deux médailles, la médaille d'or et la médaille de bronze. Il y avait donc deux équipes du Québec. Alors, de très, très bons championnats canadiens pour nos représentants et représentantes. Et je vous rappelle qu'il y a un championnat canadien qui est présenté à Laval au cours de la semaine. Donc, ça commence dès ce jeudi. Ça, c'est la coupe Ray Carter, donc c'est les 15 ans et moins, donc la catégorie Bantam là, pour les plus anciens. Alors ça, c'est présenté donc à Laval au cours du prochain week-end. Alors si vous êtes dans la région et vous voulez voir du très bon baseball, le Québec sera représenté par deux équipes, parce que l'équipe haute Évidemment, il y a l'équipe principale et l'équipe, la province haute, en fait, a deux équipes pour avoir, évidemment, un tournoi équilibré. Alors, bonne chance aux équipes du Québec. Félicitations à ceux qui ont déjà remporté des médailles. Et vous savez, bon, il y a toujours le jeu de comparaison de province en province. Je pense que le baseball au Québec va très, très bien. L'Académie de baseball du Canada forme ses joueurs. Il y a les sports-études. Ce n'est pas parfait encore, mais ça, certes, permet à des joueurs de jouer au baseball à l'année, évidemment, et à s'entraîner. Alors, c'est sûr que là, on le voit, Alain, dans les collèges américains, de plus en plus de Québécois qui y sont. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de possibilités de voir des Québécois aussi d'être repêchés éventuellement. On en a eu deux cette année, on le rappelle, Émilien Pitre et Louis-Philippe Langevin qui ont été repêchés. Donc, ça continue. Il y a une belle progression encore dans le baseball amateur cette année. On n'a pas encore les chiffres finaux, mais je vais vous dire une chose, on approche probablement autour de 42 000 jeunes. Je vous rappelle simplement que les bonnes années de baseball au Québec, là on parle, Alain, là, des années 80, là, où pratiquement tout le monde jouait au baseball l'été puis au hockey l'hiver, on avait atteint 48 000 jeunes qui jouaient au baseball. On est descendu à l'époque où les Expos ont quitté, rappelez-vous, en 2004, donc les étés 2005-2006, on est descendu près de 16 000. Et là, le baseball reprend et 40 quelques mille joueurs et joueuses, faut-il le dire, parce que les filles, c'est plus de 5 000 filles qui jouent au baseball au Québec présentement, dont l'Académie de baseball du Canada à Trois-Rivières féminin. Alors, il y a plein de bonnes choses qui se passent et c'est pour ça qu'il y a des défis pour des villes, des associations, de trouver maintenant des terrains qui ont été défaits dans les années 90 pour d'autres sports. Alors, c'est le fun de voir ça. Le baseball est en pleine santé. Le baseball amateur est en pleine santé. Et ce, malgré le départ des Expos depuis, malheureusement, maintenant 20 ans.
Bon, Marc, quand on parle de baseball, de popularité, l'idole de plusieurs jeunes, c'est Shohei Ohtani qui se dirige vers une saison de 40-40 en un circuit et trois buts volés d'atteindre ce plateau. Il pourrait même l'atteindre avant la fin du mois, ce qui serait tout à fait exceptionnel. Il n'y en a pas beaucoup qui ont atteint des 40-40 au cours de leur carrière. Shohei Ohtani, il me semble, quand il est arrivé, on le savait, bon frappeur, athlète à ce point. Tu regardes ses premières saisons, première, 10 buts volés, 12 buts volés en un peu plus de 100 matchs. Mais cette année, il a décidé de se laisser aller, puis les Dodgers lui ont donné le feu vert avec un pourcentage de succès qui est quand même intéressant. Seulement 4 fois, il s'est fait prendre. Ce gars-là a peut-être un QI supérieur à ce qu'on pense sur le terrain. Difficile avec la barrière des langues. Mais ce gars-là, assurément, c'est ce qu'il fait sur un terrain.
Bon, écoute, le QI, absolument. Ce gars-là est exceptionnel. Ça, c'est assez évident. Bon, le fait qu'il ne lance pas, c'est pour ça qu'on le laisse aller sur les buts. Je suis pas sûr que si Ohtani, on lui offrait la possibilité d'être partant 20-25 départs, est-ce qu'entre ces matchs, il se mettrait à courir comme il le fait là? Là, je suis moins certain. D'ailleurs, c'est pour cette raison avec les Angels, selon moi en tout cas, là, qui n'avaient pas autant de buts volés. Tu sais, on veut le protéger. C'est comme si on veut le protéger pour qu'il y ait assez d'énergie pour faire les deux. Le vrai test, on le verra probablement l'année prochaine. Vous savez qu'Ohtani a déjà commencé à lancer, pas évidemment à affronter des frappeurs, mais il se lance la balle. Ça, c'est une autre affaire aussi, Alain. Est-ce qu'il a vraiment subi l'opération de type Tommy John? Parce qu'on n'a jamais eu vraiment de détails sur son opération, parce que, je ne sais pas, Ohtani semble avoir bien des connexions, que ce soit ici et au Japon. Est-ce qu'on a utilisé une nouvelle procédure? Peut-être qu'on le saura éventuellement. Mais c'est un athlète hors pair. C'est un athlète, en tout cas, je suis content d'être témoin de voir un frappeur de la sorte, un joueur de la sorte, un lanceur de la sorte. Tu sais, depuis Babe Ruth, on pensait peut-être pas là, que ça allait revenir. Longtemps, le baseball refusait de voir des athlètes qui faisaient les deux. Alors, moi, je trouve ça extraordinaire. Chaque fois que les Dodgers jouent, je veux voir Ohtani frapper. Il peut évidemment te frapper une balle à 450 pieds facilement. Oups, il va te voler un but important. C'est vraiment un joueur. Tu sais, je comprends que son salaire, et certains vont dire que c'est démesuré, tout à fait, là, mais ça reste que c'est un joueur que tout le monde veut voir. Qu'on soit sur place, que ce soit à la télévision, on veut voir Shohei Ohtani.
Oui. Absolument. Un petit mot sur Aaron Judge, 300 circuits en moins de 1000 matchs. C'est le premier à réussir l'exploit, accompagné de grands joueurs de l'histoire du baseball. Malheureusement, et je dis bien, c'est Judge n'a rien à voir là-dedans, malheureusement, ça vient dans la trentaine. Donc, jusqu'où va-t-il être capable de rejoindre des plus grands? T'sais, va-t-il être capable de maintenir ça pour se rendre à 600 en coup de circuit, peut-être même 700? C'est pas certain, mais quand même, on lève notre chapeau sur cet exploit. Ça n'a pas été une carrière linéaire, Marc. Une grosse première saison et par la suite, il y a eu énormément de problèmes. Puis c'est ajusté par la suite. Moi, je lève mon chapeau davantage, Marc, pour avoir été capable de se ressaisir après ses problèmes de début de carrière.
Ah, absolument. Moi, ce qu'il fait, je trouve ça... c'est dans la même catégorie des Shohei Ohtani. C'est phénoménal parce que, ouais. Tu sais, je veux dire, ajoute à ça le fait qu'il joue pour les Yankees de New York. Donc, les attentes sont là. Je vous dis pas que c'est... Tu sais, je veux dire, il y a cette pression. Il est le visage des Yankees. On sait à quel point c'est pas facile de jouer à New York. Les médias, l'attention derrière. Puis, il réussit quand même à frapper de la sorte. Moi, je trouve ça exceptionnel. Tu sais, jusqu'où il va se rendre, l'avenir nous le dira. Mais ce qu'il fait présentement, là, c'est... je veux dire, c'est tout à fait extraordinaire. Mais ça prouve une chose, par contre. Ça prouve qu'un joueur de baseball ne peut pas faire seul et amener son équipe en série. Tu sais, ça prend une équipe autour de lui, ça prend une couple de bons joueurs, et c'est là que, finalement, ces fameux joueurs-là vont ressortir davantage, mais exceptionnel. Moi, il n'y a pas d'autre mot là, pour Aaron Judge à ce niveau-là, ce qu'il fait avec une très belle constance, soit dit en passant, au cours des dernières années, en fait.
Ouais, des trois dernières particulièrement, là. Marc, on va terminer en parlant peut-être de l'aspect plus humain de ce que c'est un joueur de baseball. Tristan Cassis est revenu avec les Red Sox de Boston au cours du week-end. Et c'est Dominic Smith qu'on a retranché. On l'a retiré de la liste des 40. Alex Cora qui était très émotif lorsqu'il s'est adressé aux journalistes relativement au cas de Dominic Smith qui a fait... Écoute, ce qu'il y avait à faire, c'est quelqu'un qui n'avait pas d'équipe quand la saison a commencé. C'est un gars qui n'a jamais été dans la controverse. Les Red Sox sont embauchés. Ça a pris un petit moment avant de partir. Il ne faut pas oublier que, comme je le mentionnais, il n'y avait pas d'équipe, donc pas de camp d'entraînement. C'est amené. Écoute, il a donné ce qu'il avait à donner. Il est très professionnel et on a vanté son attitude au sein de l'équipe où il y a pas mal de jeunes. C'était pas le style des autres jeunes. C'est pas un voleur de but, Marc, les Red Sox qui ont essayé de gagner de toutes sortes de façons cette année. Mais tout ça pour dire que, tu sais, il y a personne qui va se rappeler du rendement de Dominic Smith dans 2 ans, probablement, chez les Red Sox de Boston, là, quand tout va être en place. Mais cette année, c'est un gars qui mérite, en tout cas, une bonne tape dans le dos pour sa contribution chez les Red Sox de Boston. J'espère qu'il va se trouver une équipe, au moins pour l'année prochaine. Cette année est un peu tard. Mais pour l'année prochaine, mais sa contribution, moi, je pense, mérite d'être soulignée.
Ben, en fait, Alain, ce qui est cruel, c'est que Dominic Smith a fait exactement, et je dirais même sinon plus que ce que les Red Sox probablement anticipaient de lui, puis c'était pas suffisant. Dans sa tête, à lui, là, il est arrivé, tu as dit que c'était un lent début, c'est vrai, bon, il s'est repris, il s'est ressaisi, il a vraiment aidé les Red Sox à jouer du bon baseball. Puis là, tu t'en vas dans le bureau, puis tu dis, tu sais que tu as fait tout ce que tu avais à faire, mais on te laisse aller quand même. Alors, tu sais, dans peu importe le métier, là, tu sais, vous travaillez fort, vous êtes dans une entreprise, vous faites même plus que ce que c'est anticipé, puis quelqu'un vous dit, ben là, ça arrive, c'est des choses qui arrivent, c'est très frustrant, peu importe le domaine dans lequel on se retrouve. Ça, c'est l'exemple parfait de cette situation-là. Oui, probablement que son rendement va faire en sorte que d'autres équipes vont jeter un petit coup d'œil sur lui. Ça va peut-être lui offrir peut-être d'autres possibilités. Mais vous savez, la carrière de joueur de baseball, elle n'est pas très longue. Là, je parle évidemment dans le baseball majeur. Alors, c'est pas facile de rester. On veut gagner à tout prix. C'est pas une ligne de développement. Une ligue de développement, on veut... on veut gagner, il y a beaucoup d'argent en jeu pour les propriétaires. Si un joueur fait pas l'affaire, on le tasse. Regardez Kevin Biggio, ça marchait pas avec les Blue Jays, parti avec les Dodgers, là soudainement, oups, les Dodgers le laissent aller. Il y a plus de travail là, Kevin Biggio là. Est-ce qu'il est encore assez jeune pour jouer? Absolument, mais alors c'est ça le baseball, en fait le sport professionnel, c'est ainsi. On espère souvent chez des joueurs qu'on va avoir cette deuxième ou troisième chance. Mais c'est un aspect qui est difficile. Vous goûtez au baseball majeur, il y en a qui sont retournés même dans du baseball indépendant pour se refaire. D'autres vont partir en Asie, on tente tout. Mais le but de tout ça, c'est de revenir dans le baseball majeur. Et lorsque c'est la deux ou troisième fois qu'une équipe vous dit « on vous remercie », c'est pas des choses évidentes, mais c'est la réalité. C'est vraiment la réalité. Alors, tu peux être un héros, tu peux faire gagner ton équipe. Tout le monde t'applaudit, t'as 30 000 spectateurs qui t'applaudissent, puis on fait venir dans le bureau après le match, puis tout ça est terminé. Ouais. Fait que c'est pas toujours évident ce qui se passe, mais je pense que Dominic Smith est un professionnel. Il a quand même connu jusqu'ici une carrière intéressante. Est-ce qu'il aimerait que ça se poursuive? Probablement, là.
Oui, mais écoute, ils ont un pépé depuis le 1er juillet au-dessus de 800. Tu me demandais qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus. Pas grand-chose, Marc. Quand tu regardes ça de façon objective, il fallait que Tristan Cazis revienne. On a d'autres joueurs qui peuvent jouer au premier but. Romy Gonzalez peut jouer au deuxième but. Dominic Smith ne peut pas jouer ailleurs. Frappeur de choix, bon, on le sait que bon, il y a Yoshida, O'Neill et tout ça. Tu sais, il n'y a rien que Dominic Smith, à moins de jouer comme Shohei Ohtani, puis c'était pratiquement impossible pour lui de capable de prolonger. C'est ça qui est cruel là, dans son dossier. Puis probablement qu'il le savait quand tu as signé avec les Red Sox de Boston.
Là. Oui, bien, tu sais, au moins, il est allé puis il a fait le travail. Tu sais, je veux dire, c'est. C'est pour ça que lui doit se regarder dans le miroir puis se dire écoute, j'ai fait ce que j'avais à faire, ce que j'ai pu contrôler, je l'ai bien fait, le reste, je ne le contrôlais pas. Tu sais, je veux dire, il y a une manière ici, plusieurs manières de voir ça, mais je pense que lui a fait ce qu'il avait à faire. Mais ça devait être évidemment une rencontre très émotive, très frustrante pour les deux, autant le gérant. Que le joueur en question. Puis c'est vrai que ça doit être, tu sais, de décision comme gérant, Alain, là, de dire ok, je vais faire venir un gars dans le bureau où je sais que ce gars-là a été très bon pour moi, puis il faut que je lui annonce que c'est terminé. Ça doit pas être le fun. Ça doit vraiment pas être agréable, là, parce que souvent lorsqu'un joueur est, tu sais, je veux dire, un joueur est retranché ou cédé. À moins que ce soit un très, très, très jeune joueur, là, tu le sais que c'est probablement que le rendement n'était pas là. Donc, le gérant n'a pas une explication très longue à donner. Mais dans ce cas-ci, effectivement, j'aurais pas aimé dans les souliers de Alex Cora à ce niveau-là. Ouais.
Il y en a que ça fait moins de peine que d'autres. On va dire ça comme ça. Bon, il y a trois matchs qu'on vous présente cette semaine. L'horaire des matchs de la semaine présenté par la boutique des fans. C'est votre boutique de cartes sportives et d'objets de collection à Hawkesbury. En plus de vous offrir des cartes Pokémon Magic the Gathering et des figurines Funko Pop, on vous invite à consulter laboutiquedesfans.ca. Trois matchs, ils sont tous à 19h cette semaine. Ce lundi, c'est un bon duel entre les Orioles de Baltimore et les Mets de New York. Mercredi, 21 août, on verra les Yankees qui vont accueillir les Guardians de Cleveland, deux meneurs de section, les deux présentés à RDS. Et dimanche, ce sera Houston contre Baltimore. Donc, trois gros duels au cours de la semaine. Dimanche, ce sera à RDS 2. Je veux juste terminer, Marc, en soulignant le travail exceptionnel qui a été fait par nos collègues de RDS pour permettre que ces matchs-là soient diffusés. La bâtisse de RDS, présentement, elle est fermée en raison de la brisure là, ce conduit d'alimentation en eau énorme dans le quartier où est située la bâtisse de RDS. Et en l'espace de 36 heures, il y a des collègues qui ont travaillé sans relâche pour permettre la diffusion de ces matchs. Ça a commencé dimanche, Marc, dans des studios qui sont tout nouveaux, dans un emplacement qui, pour nous, est inhabituel. Mais on a réussi quand même à faire le match entre les Tigers et les Yankees de New York. Tout ça grâce à la collaboration de dizaines de personnes qui n'ont pas compté les heures pour faire en sorte que RDS soit capable de diffuser ces matchs-là. Marc, il faut absolument souligner le travail de ces pionniers de RDS. Voilà donc ce qui complète ce balado. J'espère que cela vous a plu. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, alors qu'on s'approche du mois de septembre. Les courses, est-ce qu'elles seront plus serrées? En tout cas, il reste encore du bon baseball d'ici la tenue des séries. D'ici là, portez-vous bien. Bonne semaine, tout le monde!
Balado Compte Complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville, fier partenaire de votre passion.